Bon, bah, bienvenue à tout le monde. Alors, si je devais me présenter succinctement, je dirais que je n'avais absolument aucune notion en fait, du sujet dont je parlais ce soir il y a 2 ans. J'avais des vagues idées en nutrition du type la pyramide alimentaire, c'est bien, les pâtes, c'est bien, le Nutella, c'est un peu moins bien, etc. Mais petit à petit, j'ai commencé à en apprendre sur le sujet et à me rendre compte que c'était un sujet qui avait beaucoup de profondeur. Ça tombe bien parce qu'en général, quand je m'intéresse à quelque chose, j'aime bien creuser. Et donc voilà. Disclaimer, je ne suis pas médecin, nutritionniste ou diététicien. Là, ce soir, je me base sur ma propre expérience, sur ce que je vois autour de moi, sur beaucoup de recherches aussi personnelles. Et voilà, par contre, quand je fais des recherches, je m'efforce de faire la part des choses entre ce qui va être idée reçue et l'état de l'art de la science. C'est du best effort, mais par contre, il y a une garantie à ça, c'est que grâce au contenu de ce soir, je suis à peu près certain que vous aurez des sensations différentes au niveau de la satiété dans votre corps. Rien que le fait d'en avoir conscience. Je trouve que moi, ça change beaucoup de choses. Et alors si ce talk réussit à faire changer vos habitudes alimentaires, alors là, vous n'aurez plus jamais faim de votre vie. Voilà. Donc ouais, pour information, je reviens de loin puisque j'ai eu, je pense, quelques problèmes avec la bouffe. Il y a une époque où je mangeais énormément. J'avais extrêmement faim, je comprenais pas trop pourquoi en fait. Notamment il y a 3 ans, savoir qu'en général je déteste grignoter. Mais j'avais eu une période où, en fait, l'après-midi, je ne pouvais pas m'empêcher de manger des cookies. En fait, je ne pouvais plus travailler si j'avais pas un apport, en cookies. Donc j'arrêtais d'aller, je n'en achetais plus pour me bloquer. Mais n'empêche que pour autant, je ne pouvais pas me concentrer au taf à cause de ça, et donc je devais aller acheter des cookies pour pouvoir continuer à travailler. Donc clairement, j'avais un problème. Et maintenant, aujourd'hui, je sais faire des repas équilibrés. Je dis pas que c'est ce que je fais tous les jours, tout le temps, mais comme j'ai conscience de ce qui est équilibré ou un peu moins équilibré, bah, naturellement, je vais tendre vers cet équilibre. En tout cas, il y a un truc que je trouve assez paradoxal donc aujourd'hui, en 2021, c'est que il y a tout un tas de nouvelles découvertes scientifiques qu'on fait sur comment notre corps fonctionne, sur tout un tas de choses, mais en réalité, j'ai l'impression qu'on est assez mal renseigné sur ça. Peut-être parce que on a un peu trop tendance à faire confiance à ce qu'on nous sert au restaurant, par exemple. À ce qu'on nous sert dans des plats préparés qui sont bons. Même finalement, quelque chose d'assez anodin comme un paquet de céréales le matin ou un jus de fruits, pour moi, ça rentre dans la catégorie plats préparés, à peu près. Et en réalité, si on creuse les chiffres, si on regarde les chiffres derrière ça, on se rend compte que physiologiquement, c'est pas forcément génial pour la santé. Donc ça peut peut-être paraître choquant de dire que voilà, du jus de fruits ou une boîte de céréales, c'est pas génial, parce qu'en fait c'est des choses qu'on prend tous en fait, qui sont ancrées dans nos habitudes. Mais voilà. Autre chose aussi qui n'est pas forcément évident, ce serait le lien entre, là je parle de faim, de satiété et d'alimentation équilibrée. C'est pas forcément quelque chose qu'on a tendance à relier. temps, pour moi, en fait, ce sont deux faces d'une même pièce. Et d'ailleurs, en fait, d'ailleurs, si on pouvait avoir une pièce avec trois faces, disons sur la tranche de cette pièce, on pourrait aussi ajouter maintenir un poids de forme. Voilà, c'est, enfin, pour moi, c'est juste la manière dont c'est juste l'angle dans lequel on le regarde, mais en fait, c'est la même chose derrière. En fait, si on y pense, ça paraît logique parce que si je mange équilibré, alors les capteurs de mon corps me laissent tranquille. J'ai pas faim, en gros, d'autres trucs aussi, mais donc mon corps reste équilibré. Ça se tient. Bref, pourquoi est-ce qu'on a faim ? Pourquoi est-ce qu'on a faim ? Ce que je vous propose pour essayer de découvrir le sujet, c'est de prendre un extrait d'un article Wikipédia. Donc voici l'extrait que j'ai sélectionné. La régulation de l'appétit a fait l'objet de nombreuses recherches. Parmi les percées, citons la découverte en 1994 de la leptine, une hormone produite par le tissu adipeux qui semble fournir une rétroaction négative. La leptine est une hormone peptidique qui affecte l'homéostasie et les réponses immunitaires. Diminution de la consommation alimentaire peut faire baisser le taux de leptine dans l'organisme, tandis qu'une augmentation de la consommation peut faire augmenter le taux de leptine. Des études ultérieures ont montré que la régulation de l'appétit est un processus immensément complexe, impliquant le tractus gastro-intestinal, de nombreuses hormones et les systèmes nerveux central et autonome. Les hormones intestinales circulantes qui régulent de nombreuses voies dans le corps peuvent soit stimuler, soit supprimer l'appétit. Par exemple, la gréline stimule l'appétit, tandis que la cholestistokine et le GLP-1 suppriment l'appétit. Wow, bon. Stop. c'est chaud, en fait. Voilà, la faim, c'était juste pour vous montrer qu'il y a énormément de paramètres à prendre en compte. C'est un processus qui est vraiment... voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais, en réalité, moi, ce que je vous propose ce soir, c'est de se focus sur trois paramètres qui vont un peu simplifier tout ça. Et qui, en réalité, si on se focus sur cela, ça aura des impacts sur à peu près toute la chaîne d'action et de rétroaction hormonale. Donc voilà, donc c'est arbitraire, mais moi ça me paraît être les plus efficaces. Donc ces trois paramètres, ce sera l'alimentation. Deuxième, ce sera la grosse partie de ce soir, la glycémie. Et une troisième partie, forcément évidente, qui est assez surprenante en réalité, qui est liée à de la rétroaction, des mécanismes de rétroaction liés à la prise de masse. Voilà, donc premier thème que je voulais évoquer, c'était non pas la faim en réalité, mais la soif. Si on lit un petit peu en fait des si on regarde un petit peu, si on se renseigne un peu sur le sujet, on peut tomber sur des articles, des gens qui vont vous dire que en réalité, si vous avez faim, il y a une chance que ce soit la soif que vous avez, que vous ne vous en rendez pas compte. Ça peut paraître étonnant, en réalité, dans le cerveau, il y a c'est l'hypothalamus qui serait responsable des deux signaux, faim et soif. Et donc, en l'occurrence, ce qui amène à penser ça, c'est que dans la nourriture qu'on consomme, il y a quand même pas mal d'eau, et de plus en plus, dans les boissons qu'on consomme, il y a de plus en plus de nourriture, entre guillemets, si on prend les sodas, si on prend la bière, par exemple, c'est des choses qui sont assez riches. Donc, si on augmente notre consommation de... on va aussi boire pendant les repas, et donc, on va quelque part part dans notre corps, là où il aurait été habitué à dissocier un peu les deux. Bon, en réalité, je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si c'est vrai parce que... non, pas la bière. Je ne sais pas si c'est vrai, cette chose-là. Il n'y a aucune étude qui montre, qui met en évidence ce principe-là. De manière claire, en tout cas. Dans les contre-arguments de cette chose-là, en général, les gens vont vous dire que le besoin de boire, c'est quelque chose de tellement fondamental que ce serait étonnant que le corps ne sache pas dissocier ça de la faim. Bon, voilà, je ne sais pas exactement quoi en penser. En tout cas, il y a des choses qui sont certaines. Il y a des choses qui sont certaines, c'est que l'eau, c'est considéré comme un nutriment aujourd'hui. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut forcément négliger. Il y a une autre chose qui est certain, c'est que attendre d'avoir la gorge sèche, avoir une sensation de gorge sèche pour boire, ah, en fait c'est pas GG. C'est pas GG parce qu'en fait votre corps, quand il est en manque d'eau, il va commencer à prioriser. Et pour le coup, la gorge, ça fait partie des endroits à hydrater les moins prioritaires, ce qui va vous donner vraiment envie de boire. Je suis tombé dans mes recherches sur une étude, c'était assez marrant, qui montrait que si on demande à des personnes, alors obèses, qui du coup, les effets sont plus visibles, de boire un grand verre d'eau avant chaque repas, pendant plusieurs semaines. C'est surprenant, mais ces personnes-là finissent par perdre du poids. Et du poids, quand j'ai du poids, c'est quand même quelques kilos. C'est genre, c'est 2, 3, 5 kilos. C'est pas négligeable. Je sais pas quelle conclusion vraiment on peut en tirer. C'est pas forcément si simple que ça. Est-ce que du coup, elles avaient moins faim? Est-ce que leur estomac était plus rempli, donc elles avaient moins envie de le remplir? Enfin, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, je pense que y a un truc qui est assez safe, qui coûte pas très cher, c'est de rester en hydratation optimale, on va dire. Mais vous allez me dire, bah ouais, mais comment je fais? Comment je fais pour le savoir? Ce que je vous propose, c'est de regarder ce que vous dit votre corps. Et quoi de mieux pour savoir si on a bu correctement, en fait, que de regarder la couleur de votre pipi. Voilà, ça, je sais que c'est pas forcément quelque chose auquel on aurait pensé, mais c'est vraiment un sujet de recherche scientifique qui a pas mal d'avantages. Donc je vous envoie un urine chart. En fait, ce que ça permet de se focaliser sur ça plutôt que de dire il faut boire 1,5 litre d'eau par jour, il faut boire 2 litres d'eau par jour, je sais pas quoi. C'est que ça permet de lisser en réalité vos besoins par rapport à votre activité. C'est-à-dire si vous faites du sport, si vous êtes dans un environnement qui est sec, vous aurez besoin de plus d'eau. Et avoir une urine qui est très claire, ça veut dire ok, bah à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Être souvent assoiffé, beaucoup boire, trop boire, problème de sel, osmose. Alors, en fait, si vous... Pour le coup, la question du sel, il y a des substances, comme le sel, le sucre, qui sont... Je crois qu'ils sont dites osmo quelque chose, qui, en fait, vont augmenter la concentration de certaines choses dans vos cellules de votre corps. Et du coup, vont faire baisser la concentration d'eau, par conséquent, et ça va empêcher l'eau de passer correctement, si je dis pas de bêtises. corps, dans votre corps, vous avez besoin que votre eau, que l'eau de votre corps puisse transiter du haut de votre tête jusqu'à vos orteils. Voilà, c'est ce que je peux te dire sur le sujet. En tout cas, je pense que si vous faites attention voilà, à la couleur de ce qui sort et que votre gorge n'est pas sèche, je pense que c'est déjà deux bons gros indicateurs qui disent que de ce côté-là, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà, donc là, c'était une petite thématique sur l'eau et la soif que je voulais évoquer ce soir. Là, je vais entrer sur le gros du sujet en parlant de glycémie. Voilà, donc sans transition, qu'est-ce que c'est que la glycémie ? La glycémie, tout simplement, c'est un taux de sucre dans votre sang. Quand je dis sucre, c'est pas très différent de ce que vous avez dans des carrés de sucre. Donc ça, dans votre sang, c'est votre glycémie. Et on parle souvent d'une hormone qui est liée, donc l'insuline. Peut-être que des gens la connaissent. Plus votre glycémie va être élevée, en général, plus votre insuline aussi. Je vais détailler un peu ça, mais voilà, en gros, la glycémie, c'est une grosse clé de compréhension hein, de l'équilibre alimentaire. C'est pas suffisante pour tout expliquer, mais déjà, quand on a compris ça, on a compris beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que ça signifie, en fait, avoir de la glycémie ? Quand vous vous nourrissez, quand vous digérez certains aliments, oui, la plupart des aliments en fait vont être digérés et générer du glucose qui va passer dans votre sang et donc faire augmenter votre glycémie. Le glucose, donc le sucre, c'est des termes qui sont quasiment identiques. C'est un carburant, c'est le carburant principal de votre cerveau, de vos muscles. C'est aussi bête que si vous voulez lever votre main et que vous n'avez pas de glucose, vous ne pouvez pas le faire. Idem si vous voulez réfléchir et que vous n'avez pas de glucose à fournir, vous ne pouvez pas. Et d'ailleurs, dans les cas extrêmes, si vous n'avez pas assez de glucose, vous pouvez tomber dans le coma. Donc c'est quelque chose voilà, d'assez vital. Il y a d'autres éléments qui sont nécessaires en tant que carburant. C'est un peu comme dans une voiture, vous avez l'essence qui est le carburant principal, et après on peut dire que, par exemple, un moteur ne pourra pas tourner sans huile. C'est un peu pareil, il y a d'autres éléments, mais le glucose, on va dire que c'est le carburant principal. Donc, quand vous vous nourrissez, quand vous digérez des aliments et que vous générez du glucose, votre glycémie va évoluer et votre corps va avoir différentes réactions en fonction de ce taux-là. Si vous avez une glycémie qui est forte, je ne vais pas dire une hyperglycémie, parce que ce serait trop, mais disons forte au-dessus d'un certain seuil, votre corps va chercher à gérer cet afflux en le stockant. D'abord, les premières sources qui vont être utilisées, les sources les plus faciles dans lesquelles déposer ce glucose, ça va être dans le glycogène, pour ceux qui se souviennent des cours de SVT, dans le glycogène, au niveau des... Donc en fait, il y a des espèces d'espaces tampons au niveau des muscles et au niveau du foie. Comme ça optimise un petit peu le jour où vous voulez taper un sprint. Vous avez une réserve qui est dédiée aux muscles des jambes, etc., etc. Vous avez besoin de pomper dans dans le sang, qui est la réserve un peu à laquelle tous les organes peuvent puiser. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe une fois que votre glycogène a été rempli de glucose ? En fait, vous stockez ce glucose sous forme de masse grasse, tout simplement. Ça peut paraître un peu surprenant de dire ça. On peut avoir une espèce d'idée préconçue qu'en réalité, si on grossit avec de la. Enfin, si on augmente notre masse grasse, c'est parce qu'on mange gras, parce que les deux sont gras, donc du coup on associe les deux. En réalité, non. C'est pas vrai. Ce qui fait que votre corps prend de la masse grasse, c'est parce qu'il stocke du glucose qui est dans votre sang. On verra un petit peu plus tard que si vous mangez trop de beurre, vous allez quand même grossir. Mais en réalité, c'est pas si simple que ça. Par contre, si vous mangez des carrés de sucre, là, ça va être instantané. Donc du coup, si vous avez... vous mangez plein de carrés de sucre, vous allez avoir une grosse glycémie. Votre corps va devoir gérer ça. Parce qu'en fait, il ne peut pas se permettre de laisser ce glucose dans votre sang. C'est un peu le principe du sodium. Enfin, c'est-à-dire que si vous avez quelque chose à un taux plus élevé dans votre sang, forcément le reste est à un taux moins élevé. Et donc ça peut causer des problèmes. Ça empêche la circulation. Voilà. Donc il faut gérer ça. Et comment est-ce que votre corps réagit à ça? Votre corps va produire donc de l'insuline, une hormone, qui va tout simplement servir à accueillir le glucose et à le faire transiter dans les divers tissus. Voilà, c'est... Et donc, on a des courbes comme ça. Souvent, on voit des courbes quand la glycémie augmente. Enfin, les courbes se suivent quand même assez de manière assez proche. Mais parfois, on peut avoir des écarts, en fait. Enfin, des choses qui sont pas aussi des courbes qui ne se suivent pas aussi facilement que ça, notamment si vous avez trop grosse glycémie. Donc votre corps va vouloir gérer ça. En fait, il va avoir votre glycémie qui va augmenter d'un coup, qui va exploser. Il va se dire oula, je dois gérer tout ça. Donc il va générer plein d'insuline et tout d'un coup, en fait, vous arrêtez de manger. Par exemple, vous avez mangé, je sais pas, on va dire 10 carrés de sucre d'un coup, donc ça va exploser. Et il va falloir gérer tout ça et tout d'un coup vous arrêtez de manger, mais en fait votre corps il prévoyait qu'il y en aura encore plus, donc en fait si jamais vous faites pas forcément attention à ça, vous pouvez, il y a des conséquences possibles, type hypoglycémie réactionnelle, hypoglycémie réactive, donc c'est le fait que en réalité comme votre sang de base a une glycémie, on va dire la glycémie à jeun. En réalité, comme il vous reste beaucoup d'insuline qui n'a pas encore qui a été sécrétée en pensant qu'il y aurait une charge plus lourde à gérer, votre corps va pomper en fait votre glucose de glycémie à jeun. Et donc vous pouvez faire une hypoglycémie réactionnelle. Si vous avez une glycémie qui est trop grosse pendant trop longtemps, ça peut mener vers des conséquences type diabète type 2. Parce que ce qui va se passer, c'est que votre corps va avoir des taux d'insuline qui seront trop élevés. Et donc, ça va créer des déséquilibres hormonaux. Enfin, ça, c'est des mécaniques assez génériques qu'on retrouve souvent. C'est-à-dire que quand vous produisez trop de quelque chose, votre corps finit par ne plus être aussi réceptif que ça à cette chose-là. Et donc, ça crée des désordres. Avoir une trop grande glycémie, ça a aussi un effet. Merci Oxo. Si jamais vous avez une trop grande glycémie, notamment celle juste après avoir mangé à midi, c'est ce qui va causer votre général le coup de barre de 14 heures. Le coup de barre de 14 heures, on a tous plus ou moins eu cette envie de pioncer. Peut-être il y a des gens c'est tous les jours, peut-être il y a des gens c'est pas souvent, mais ça arrive. En réalité, c'est lié à ça. C'est derrière cette glycémie se cache pas mal de choses, notamment ça. Alors pour le coup, c'est pas lié à l'hormone insuline dont je parle depuis tout à l'heure. C'est lié à une autre hormone. Ce serait lié, c'est pas encore vraiment avéré, mais ce serait lié à de la sérotonine qui du coup, quand vous avez un taux de glucose qui est ultra élevé, va produire un effet somnolent. Quand vous avez un taux de glucose trop élevé, vous allez produire trop de sérotonine, et la sérotonine à trop forte dose est connue pour son effet de somnolence. Voilà. Donc ça, ce sont des effets. Oui, et j'ai oublié de préciser l'effet le plus important qui nous concerne le plus ce soir, c'est que en général, avoir une glycémie forte fait que vous n'avez plus faim. C'est-à-dire que le corps détecte que votre taux de glucose est largement suffisant, donc pas la peine d'apporter plus d'énergie que ça, c'est bon, j'ai plus faim. Mais d'un autre côté, j'ai donné des éléments qui montrent que avoir une glycémie trop élevée, en fait, ça a d'autres conséquences qui ne sont pas forcément intéressantes. D'un autre côté, si jamais vous ne mangez pas, si jamais vous juste vous attendez, ou si vous dormez et que vous vous réveillez le matin, souvent ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir alors pas une hypoglycémie, parce que le terme est fort, mais une glycémie faible. Bah, vous allez avoir faim, tout simplement. Vous allez avoir faim, et donc, inversement de la glycémie forte, si cette glycémie reste trop basse pendant trop longtemps, votre corps va déstocker de la masse grasse pour générer du glucose. Il y a aussi d'autres effets, du type, vous allez souvent être fatigué, irritable, ce genre de choses. Et si votre glycémie, on va dire, est équilibrée, enfin reste dans des variations équilibrées, vous allez avoir la sensation d'être en forme, d'avoir plein d'énergie, votre corps va la consommer tranquillement, enfin il va la consommer, on va dire, correctement, il va faire du stockage, mais pas trop. Et surtout, il vous laissera tranquille, il ne vous demandera pas plus de sucre que ça. J'ai un graphe à vous montrer à ce sujet qui vous montre, en fait, là je parle de glycémie forte, faible, équilibrée entre guillemets. Là, ce graphe-là, c'est un graphe qu'on retrouve souvent quand on regarde, en fait, quand on s'intéresse à l'évolution de cette glycémie après une prise alimentaire. Selon ce qu'on mange, il va y avoir plusieurs réponses, voilà, plusieurs types de réponses. On s'intéressera plus tard à ces types de réponses, mais globalement, voilà à quoi ça ressemble après une prise alimentaire et après plusieurs heures. Comment ça évolue? Voilà, donc j'aimerais bien vous donner des clés pour savoir comment mieux gérer sa glycémie. Je trouve que c'est intéressant. Mais avant de faire ça, je vais avoir besoin de faire un petit point sur les nutriments, sur ce qu'on appelle les nutriments et les familles, en fait, en nutrition. En nutrition, en fait, il y a deux grosses catégories de nutriments. Les macronutriments, les micronutriments, la différence, elle est simple, c'est juste en fonction des besoins journaliers. Les macronutriments, on a souvent besoin de plusieurs dizaines, plusieurs centaines de grammes. Et les micronutriments, c'est en général moins d'un gramme. Nous, ce à quoi on s'intéresse aujourd'hui, ce sont les macronutriments. Les micronutriments, c'est plutôt vitamines, tout ce qui est la famille des minéraux, oligo-éléments. Ça pourrait faire l'objet d'un livre blanc à part entière. C'est clairement pas à cause de ça qu'on a faim. Si on est en carence, on va dire, de micronutriments, ou enfin l'inverse de la carence, quand on en a beaucoup trop, ça peut arriver aussi d'avoir trop de vitamine, je sais pas, C, ça nous cause des problèmes. Et donc pour la parenthèse, tout simplement pour éviter d'être en carence de ça, en général ce qu'on recommande c'est de consommer des légumes, tout simplement, sans limite. Sans limite parce que c'est vraiment compliqué de les dépasser. Et surtout, une technique, c'est de varier. Voilà, parce que en fait ça a beaucoup d'avantages. Mais voilà, donc si vous voulez plus de précision sur ça, on peut éventuellement en reparler après, mais c'est pas forcément le sujet. Là, je voulais surtout dégrossir les macronutriments, parce qu'en fait, ils sont au cœur de la compréhension de comment est-ce que la glycémie évolue. Donc il y a quatre familles. La première, c'est l'eau, on a parlé juste avant. Trois autres, donc glucides, protéines, lipides, que vous connaissez tous. J'ai prévu un petit schéma pour chacun d'entre eux, pour mieux y voir clair dans ce que c'est que ces familles. Donc voici le schéma en ce qui concerne les glucides. Donc dans la famille des glucides, on a parlé, disons que pour bien comprendre la famille, on va partir du glucose. Le glucose, voilà, on va dire que c'est la plus... Bonsoir à toi, TNRV. Le glucose, c'est la plus petite molécule de la famille. C'est, on va dire, c'est une unité de base, quoi. Et en réalité, c'est une famille qui est très très diverse. Mais chaque élément de la famille est une chaîne de cet élément de base. Donc le saccharose, par exemple, ce sera deux glucoses simplifiées. Hein. Tout un tas de sucres simples seront des petites chaînes. Sucres dits simples seront des petites chaînes de glucose. Et plus vous allez avoir une chaîne longue, plus vous allez tomber sur des glucides dits complexes. Comme l'amidon. L'amidon, je crois que c'est une centaine de glucose. Le fructose est un glucose simple. Voilà, donc les glucides complexes, on les appelle aussi les sucres lents. Les glucides simples, les sucres rapides. Pourquoi est-ce qu'on dit sucre lent et rapide? C'est lié au temps de digestion. Qui va en fait donner un profil, enfin on peut le deviner, hein, qui va donner un profil plutôt en cloche de votre courbe, ou plutôt quelque chose de lissé sur le temps. Dans la famille des glucides, on a aussi un autre élément qui est un peu différent du reste, mais qui quand même fait partie de la famille, ce sont les fibres, qui pour le coup en fait sont des chaînes tellement longues de glucides. En fait, elles sont tellement longues qu'on ne peut même pas les digérer. Donc vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah en fait, ça sert juste à ralentir la digestion. Pour ne pas spoiler. On en reparlera un petit peu plus tard. Voilà, donc dans mon schéma, j'ai repris ce que je disais sur le transformation en fait en glucides complexes, qui vont être dégradés en glucides simples et qui eux-mêmes vont être distribués dans les circuits lents ou rapides de consommation directe, de stockage dans le glycogène proche de vos muscles ou dans les masses grasses. Voilà ce qu'on a besoin de savoir pour les glucides. Deuxième famille à laquelle on va regarder. Je ressors mon schéma. Voilà, donc deuxième schéma pour comprendre la famille des protéines. Les protéines, j'ai fait une grosse ellipse. Parce qu'en réalité, des protéines, il y en existe une tonne. Chaque être vivant a ses propres protéines. Donc, en fait, quasiment tout. Beaucoup de choses dans votre corps sont des protéines. hein, les anticorps, le collagène au niveau de la peau, c'est une protéine, dans le sang, l'hémoglobine, c'est une protéine, l'insuline, c'est une protéine, enfin bref, il y a beaucoup, beaucoup de protéines. Chaque être vivant en a plein. Mais globalement, on peut simplifier la famille, parce qu'en réalité, ce qu'on regarde souvent, ce sont plutôt les acides aminés qui composent ces protéines. Et ce qui fait que, ce qui fait qu'en réalité, quand on digère une protéine, on va décomposer en acides aminés. Un peu comme un collier de perles. En fait, une protéine, c'est un peu comme un collier de perles. Un acide aminé, ça va être une perle. Votre corps va juste détisser et refaire ses propres protéines. Voilà. Faut savoir que, voilà, que les protéines peuvent être aussi dégradées en glucose. C'est quelque chose qui se passe, si je ne dis pas de bêtises, assez naturellement et à peu près tout le temps, mais qui est quand même mis en valeur, enfin qui est beaucoup plus fréquent si soit vous avez mangé assez de glucides, si vous avez mangé pas assez de glucides, ou si vous avez mangé trop de protéines. Si vous avez mangé trop de protéines, votre corps va se dire bah en fait ça me servira à rien d'en apporter plus, d'avoir toutes ces perles en un acide aminé disponible pour faire des colliers de perles dont je n'ai même pas besoin. Donc plutôt, ce que je vais faire, c'est je vais les décomposer en glucose pour pouvoir les stocker après. Sous forme de glucides et non pas sous forme de protéines. Parce qu'on ne peut pas en réalité stocker des protéines. On peut. Je reviendrai sur ça un peu plus tard, mais pas de la manière dont on pense. Pas aussi efficacement que le glucose peut l'être dans les tissus adipeux. Alors, pour une raison assez mystérieuse encore aujourd'hui, les protéines sont une assez bonne source de satiété. Voilà, en général, quand on mange des protéines, on a beaucoup moins faim. Et donc je tombais sur une étude assez assez étonnante dans laquelle des chercheurs avaient proposé à des personnes en surpoids, en lourd surpoids, des régimes alimentaires à volonté. En fait, ils avaient à disposition certains aliments devant eux, ils pouvaient les prendre à volonté, et dans un groupe, il y avait plus de protéines que dans l'autre. Je crois que c'était 15% d'écart en termes de rapport en kilocalories. Et voilà, donc le groupe qui avait plus de protéines, en fait, perdait du poids à la fin de l'étude. Ce qui est assez étonnant parce que et l'autre groupe, en fait, avait un poids identique, un poids se maintenait à son poids. Ce qui est assez étonnant puisque les personnes pouvaient manger à volonté. Où est-ce qu'on retrouve des protéines? Alors principalement dans les sources animales, mais aussi dans les sources végétales. Là, c'est un sujet qui est un peu un sujet de à la mode en ce moment, protéines animales, protéines végétales, végétariens, végétaliens. Chaque source a ses propres protéines de base. Chaque source a ses colliers de perles qui lui sont propres. Et en fait, c'est pas si magique que ça de détisser des perles et de reformer des colliers, puisque en fait, certaines perles ne peuvent pas être synthétisées par notre corps. Donc, doivent absolument être apportées par l'alimentation. Certaines perles peuvent être transformées, d'autres. Donc, on doit les avoir. Et donc juste pour la parenthèse, souvent dans les sources animales, en fait on a un profil qui est plutôt proche du nôtre, plutôt proche de l'être humain. Dans les protéines végétales, en général, c'est moins le cas. Mais ça marche quand même, c'est exactement la même chose. C'est juste que voilà, quand on est végétarien, il faut un peu plus faire attention à varier ses sources. Si vous voulez plus de précision sur ça, je peux y revenir après le talk. Mais voilà, c'est pas forcément le sujet. Les protéines. Et troisième famille, les lipides. Donc pareil. J'ai un schéma sous le bras. Que voici. Les lipides, c'est un peu pareil que les protéines, dans le sens où il y a quand même pas mal qui sont importants, qu'on ne peut pas synthétiser nous-mêmes. Et en général, plus elles sont sur la gauche, là, sur mon schéma, moins on peut les synthétiser nous-mêmes. On remarque sur ce schéma qu'il y a plusieurs catégories, hein, qu'on retrouve dans toutes les pubs à peu près, hein, manger des oméga 3, des oméga 6. La raison du fait qu'elles sont très importantes, c'est parce qu'on peut les dégrader. Plus elles sont sur la gauche dans mon schéma, moins elles sont saturées en hydrogène. L'opération de saturation, c'est une opération que le corps peut réaliser. Par contre, l'opération de désaturation, ce n'est pas possible. Donc, on doit forcément apporter certaines alimentations. Et elles peuvent être toutes dégradées vers, au final, du glucose. Donc, c'est pas forcément pour dire les oméga 3 c'est bien, le beurre c'est pas bien. même si en soi, je pourrais le dire, ce serait vrai. Et voilà, mais surtout, tout à l'heure je disais, c'est pas forcément parce qu'on mange gras qu'on va prendre du poids. Ça, c'est un peu une théorie des débuts de la nutrition. On ne savait pas trop ce qu'on disait, on remarquait que les deux étaient gras, donc voilà. Par contre, ce qui est vrai, c'est que comme les protéines, on peut en faire du glucose, et donc si notre corps, en fait, il n'a pas besoin d'acides gras saturés. Donc si on ne consomme que ça, ça va être pareil que les protéines, il va dire, ok, mais dans ce cas, je ne vais pas l'utiliser pour sa fonction principale, mais je vais le transformer en glucose et je vais le stocker pour plus tard. Mais, d'un autre côté, je ne pourrais pas le réutiliser en tant que acide gras. Et pour information, donc les acides gras, c'est super important en fait dans tout un tas de cellules de notre corps, pour que le cerveau fonctionne bien, pour que la peau puisse être ce qu'elle est, pour que vos muscles puissent être ce qu'ils sont, etc. etc. Voilà, donc idem que pour les protéines, hein, si jamais on consomme trop de lipides, on en fera du glucide, si on consomme pas assez de glucides, on en fera... les lipides seront utilisés en tant que glucides. Et un autre élément important sur cette famille des lipides, c'est que ce sont des éléments qui sont très très lents à digérer. C'est des grosses molécules, donc c'est compliqué de les casser, de les transformer, etc. Et donc, ça va ralentir votre digestion. Ce qui, en réalité, est assez intéressant, puisque si on peut maintenir une glycémie plus élevée que la moyenne sur le temps, en fait, on ressent moins le besoin de se nourrir à nouveau plus tard. Donc ça, c'est trois familles, glucides, protéines, lipides. Maintenant, on voit un peu mieux les différences entre chacune de ces familles. On peut un peu rentrer dans le sujet, comment est-ce que je peux gérer ma glycémie? Comment est-ce que je peux essayer de l'optimiser? La nutrition, c'est un sujet d'étude, c'est une science, entre guillemets, qui est assez jeune, donc qui fait encore beaucoup de progrès, mais qui se contredit aussi assez fréquemment. Donc, je pense qu'ici, on a tous plus ou moins, on dit tous plus ou moins sucre lent, sucre rapide. C'est une notion qui a été popularisée à une époque, mais qui aujourd'hui, en fait, ne veut plus dire grand-chose. Ça n'a plus vraiment de sens de parler de ça. Parce que en réalité, les aliments entre eux peuvent avoir des profils d'absorption, mais en réalité, concrètement, ce qui se passe, c'est que quand on mange un repas, et dans un repas, les éléments ont des interactions sur leur temps de digestion, donc font que ça n'a plus de sens. Il y a eu, suite à sucre lent, sucre rapide, il y a eu, à un moment donné, l'indice glycémique qui est apparu. L'indice glycémique, c'était une notion qui permettait de, au lieu d'avoir deux catégories lent, rapide, c'était d'avoir un chiffre de 0 à 100 qui permettait de savoir si quelque chose était plus ou moins lent à digérer ou pas. Qui d'ailleurs variait en fonction de à la fois l'aliment en soi, mais aussi les conditions de transformation. Par exemple, si vous laissez trop des pâtes dans l'eau, trop bouillir dans l'eau, ou alors juste reposer dans l'eau, du riz, c'est pareil, vous allez en fait dégrader les liaisons dites acarides entre les sucres. Donc vous allez rendre leur digestion beaucoup plus facile. Qui dit rendre une digestion beaucoup plus facile, c'est bien parce que ça augmente la biodisponibilité de l'aliment. Mais d'un autre côté, si c'est de la biodisponibilité de glucose qu'on augmente, en fait c'est pas forcément ce qu'on recherche, puisqu'on va avoir des courbes plutôt en cloche que lissées. Il y a aussi un autre élément de transformation qui augmente beaucoup l'indice glycémique. Ça va être le raffinage des farines. Voilà. Globalement, dès que vous allez broyer ou pétrir un aliment, en fait, vous allez casser des liaisons qui autrement auraient dû être cassées par vos dents, par votre salive, par votre estomac, etc. Et donc vous allez faciliter l'absorption, vous allez augmenter la vitesse d'absorption des glucides. Dans les végétaux, plus un fruit va être vert, moins il aura de glucides et plus il aura de fibres. À l'inverse, plus il sera mûr, plus les fibres seront transformées en glucides. Là, on retrouve la raison pour laquelle les fibres sont dans la famille des glucides. Voilà, donc l'indice glycémique, ça a été quelque chose qu'on retrouve beaucoup encore en ligne aujourd'hui. Chaque aliment, en fait, on peut avoir sa valeur d'indice glycémique. Mais à nouveau, c'est une notion qui est de moins en moins pertinente. Pourquoi ? Parce que en fait, voilà. Alors, il y a deux raisons à ça. Déjà parce qu'en fait, dans un repas, vous allez manger plusieurs choses en même temps, et donc en réalité, vous n'aurez jamais vraiment. Si une carotte a un indice glycémique de, je sais pas, 35, vous n'aurez jamais 35 en fait. Ça n'existera pas. Et aussi, il y a un élément qui est assez intéressant. On a du mal à expliquer pourquoi, mais si on se focalise, on demande à des gens de manger avec un indice glycémique extrêmement faible, d'optimiser l'indice glycémique dans leur repas, on n'obtient pas spécialement de résultats. En fait, les gens vous consomment à peu près la même chose. Donc, en fait, c'est assez difficile à expliquer, mais c'est pas forcément le truc le plus intéressant. Disons que avoir un indice glycémique qui est trop élevé, ça c'est un problème. Par contre, en dessous d'une certaine valeur, ça n'a plus forcément de sens de chercher à l'optimiser. Et d'ailleurs, il y a aussi une grosse étude chez plus de 800 personnes qui s'intéressaient à la réponse. Donc, la dernière, on va dire, la dernière métrique en date pour parler de ça, c'est la réponse glycémique post-prandiale, en anglais PPGR, qui pour le coup, voilà, vous prenez un repas, on mesure votre glycémie, c'est voilà, c'est clair. Et, mais bon, du coup, c'est lié forcément à un repas en particulier. D'un autre côté, c'est extrêmement précis. Donc en réalité, on s'est rendu compte que il y avait des types de repas d'alimentation qui variaient beaucoup en fonction de à peu près tout le monde. Chacun avait un peu son propre profil. Et ce qui était vraiment surprenant dans cette étude, c'est que ça ne pouvait pas être expliqué que par les réponses différentes n'étaient pas expliquées que par le contenu du repas, mais aussi par des paramètres qui étaient en dehors de ça, quoi. Notamment, les chercheurs avaient montré que c'était lié au contenu des repas précédents. Donc la réponse glycémique d'un repas était corrélée avec ce que contenait un repas d'avant. c'est marrant. Avec le contenu de la flore intestinale de ces personnes était lié à leur activité physique précédente. Voilà, donc c'est... Donc en fait, on peut se dire, en fait, c'est un casse-tête monstrueux, on pourra jamais s'en sortir. En réalité, il y a une valeur sûre à laquelle on peut se fier, c'est d'essayer d'avoir une réponse glycémique voilà, la plus plate possible. Et donc, comment faire ça? Comment faire ça? Du coup, essayer de pas consommer des sources trop fortes. Finalement, les accompagner de lipides, ça c'est important, parce que du coup, ça va lisser la courbe sur le début, ça va empêcher la valeur d'atteindre son maximum trop vite. Et consommer des protéines avec ça. Pourquoi des protéines? Parce que en réalité, elles vont. On remarque que voilà, quand on rajoute des protéines dans un repas, déjà la satiété augmente, mais aussi sur la réponse glycémique, on remarque que sur la fin de la courbe, au moment où la courbe redescend, en fait, la protéine remonte. Le taux de glucides remonte. Ce n'est pas. Voilà. On ne l'explique pas, mais ça, c'est un fait. Donc si vous avez un repas qui contient à peu près de tout, vous avez une courbe qui est la plus lisse possible, à la fois au début et à la fois à la fin. Et ça, c'est quelque chose qui, dans tous les cas, sera intéressant. Et je n'oublie pas, bien sûr, les fibres. Les fibres qui du coup, de la même manière que les glucides, que les lipides, ralentissent le tout, et donc empêchent la courbe d'avoir son maximum le plus tôt possible. Ectomorphe, mésomorphe, endomorphe, il y a des études qui confirment ces termes. J'ai pas trop regardé le sujet, mais de ce que j'ai cru comprendre, c'est une classification qui a été réfutée, qui simplifie trop en fait quelque chose qui est plus complexe que ça. Je pense que ça peut être intéressant pour mettre en évidence le fait que on a tous un métabolisme différent. Mais voilà, de là à dire, toi t'es ectomorphe, du coup c'est pour ça qu'il t'arrive ce qui t'arrive, toi t'es endomorphe, etc. Malheureusement, ça a été réfuté. Voilà, la courbe la plus plate possible, c'est quelque chose qu'il faut essayer de viser. Et si je peux me permettre de citer quelques exemples de choses qui du coup sont pas du tout dans cette optique-là. Je parlais de boire du jus d'orange tout à l'heure. En fait, du jus d'orange, c'est quoi? Ça va être un fruit que vous allez presser. Donc, vous allez extraire en fait tout le glucose de ce fruit. Les fruits sont des aliments qui sont très chargés en fructose, qui est quasiment du glucose. Hein. Sauf que vous allez pas prendre les fibres de ce fruit, elles vont, il y en a beaucoup qui vont rester en fait dans la pulpe que vous n'allez pas mettre dans votre jus. En plus, vous allez mettre l'eau du... Parce que donc, dans un fruit, il y a quoi? Il y a des fibres, de l'eau et du sucre, globalement. Vous allez mettre donc juste l'eau et le sucre, pas les fibres. Donc en fait, c'est une des manières d'avoir une réponse glycémique la plus élevée possible. C'est, voilà, c'est d'accompagner du sucre avec de l'eau. Voilà, donc c'est pas ouf. Après, encore une fois, voilà, toujours relativiser les choses. Boire un jus de fruits dans un repas type petit-déj, c'est quand même plus intéressant. Parce que en général, on peut penser que vous allez manger autre chose et que donc ça va amortir. Par contre, boire un jus de fruits, je sais pas, à 10h du mat parce que vous avez faim, en fait, c'est pas ouf. C'est pas ouf, ça risque de faire une mini hypoglycémie réactive, entre guillemets. C'est pas optimisé. Pareil pour boire un café sucré. Si vous mettez deux sucres dans votre café, en fait, sur le coup, ouais, vous allez sentir plein d'énergie. Enfin, le café a d'autres effets sur se sentir en forme ou pas, mais disons, du point de vue glycémique, vous allez en avoir plein d'un coup, et après, ça va redescendre. Tout à l'heure, je parlais aussi des céréales en paquet. Alors, souvent, très souvent, quand on regarde en fait la composition d'un paquet de céréales, vous pouvez regarder, hein, c'est, dans les valeurs nutritionnelles, il y a toujours la catégorie glucides, dont sucre. Donc en général, plus il y a de sucre, enfin en fait, si jamais tout le contenu de glucides de votre aliment, c'est du sucre, en général, c'est pas bon signe. Et il se trouve que dans les paquets de céréales qu'on vend, bah, souvent une grosse partie, c'est du sucre. Souvent, c'est aux alentours de 22-25 grammes de sucre pour 100 grammes d'aliment. Or, en réalité, qu'est-ce qu'on... Enfin, 25 grammes, ça correspond à quoi? Ça correspond à la valeur maximale recommandée par jour. De sucre, en fait, je ne sais plus si c'est l'OMS ou l'agence française de santé qui recommande ça, de ne pas dépasser ça par jour. Et 100 grammes de céréales, c'est à peu près un bol. Donc ce qui fait que, en réalité, si vous mangez un bol de céréales le matin, vous avez déjà consommé tout votre budget sucre de la journée. Ouais, donc dans les trucs à éviter, enfin disons qui sont pas très optimisés de ce point de vue-là, j'ai parlé de laisser cuire des pâtes trop longtemps, laisser cuire du riz trop longtemps dans son eau, ou typiquement manger uniquement des pâtes. Ça c'est un truc, en fait, c'est pas forcément génial. Souvent on pense ah ouais, les sportifs ils mangent des pâtes, c'est bien, vas-y moi aussi. Alors oui. Mais par contre, il faut forcément mettre quelque chose à côté, sinon vous aurez faim souvent dans les 2 heures, vous commencerez à avoir faim. Ce qui n'est pas forcément en fait intuitif des choses qu'on peut entendre. Donc au contraire, voilà, donc comment avoir une courbe la plus plate possible. Dans les conseils, voilà, souvent qu'on retrouve, c'est si jamais vous, approximativement, vous voulez faire une assiette équilibrée, vous la divisez en 4. Dans un des quarts, vous mettez de la viande. Dans un des quarts, vous mettez céréales ou légumineuses. Ça peut être des pâtes, hein, ça peut être des pâtes. Et dans le 2 derniers quarts, vous mettez des légumes. Voilà, et souvent, c'est un truc qui est assez fiable. Dans les bonnes pratiques, apporter des nutriments en continu. En fait, essayer d'avoir le plus possible des repas qui soient complets, qui aient de tout. Parce que si vous prenez tous vos glucides le matin, toutes vos protéines le midi et tous vos lipides le soir, ça va pas bien marcher. Voilà. Et en plus, en fait, et en plus de ça, c'est un intérêt de consommer tous ces éléments au fil de la journée, c'est que votre corps les absorbe mieux. Merci Wingsun, à bientôt. Je recharge dans mes notes où j'en étais. Ouais, alors, il y a un truc aussi. En fait, souvent, voilà, quand on a faim, faut pas hésiter à faire des encas. En fait, souvent, on dit, ouais, faut pas trop grignoter entre les repas, etc. En fait, c'est pas vraiment déconseillé en soi. Par contre, il faut le faire d'une manière, on va dire, efficace. Qu'est-ce que c'est un bon encas? C'est quelque chose qui est séparé du repas principal, on va dire, de, je sais pas, minimum 2 heures, 4 heures. 2 à 4 heures, qui contient des glucides, toujours, et quelque chose en plus. Donc dans l'idéal, en fait, qui contient de tout, donc glucides, lipides, protéines, fibres, mais bon, parfois ça peut être compliqué, donc qui contient toujours des glucides et quelque chose d'autre. Des protéines pour la satiété, pour amortir la fin de la courbe, ou alors des lipides pour ne pas avoir un pic. Si jamais vous voulez des chiffres sur tout ça, parce que là tout ce que je dis, ça paraît pas forcément très concret, il y a des chiffres, il y a des valeurs optimisées qui voilà qui tournent. Pour les protéines, la valeur minimale en fait que votre corps a besoin pour fonctionner, en dessous de ça, en fait, vous allez vers la sous-nutrition, votre corps va commencer à être malade, c'est 0,8 grammes par kilo de poids de corps. Ça, c'est une valeur, voilà, 0,8 grammes de protéines par kilo de poids de corps. C'est quelque chose que vous devez absolument apporter. Au-delà de 1,8, par contre, il n'y a aucune étude. 1,8 grammes par kilo de poids de corps, c'est une valeur qu'il ne sert à rien de dépasser. Alors même si en fait, même si vous me dites ouais mais moi je soulève de la fonte, tous les jours je soulève 200 kilos, machin, bah ouais ok, mais il voilà, n'y a aucune étude qui montre que au-delà de 1,6 en réalité, donc 1,8 c'est déjà ça prend déjà une marge, il n'y a aucune étude qui montre que ça ne sera absorbé par votre corps. Votre corps va juste le rejeter ou le transformer en glucides. La valeur à laquelle on peut se fier tous, à peu près tout le monde, voilà, 0,8, 1 gramme par kilo de poids de corps. Ce qui correspond par rapport à un montant total en kilocalories de 10 à 20%. Donc vous pourrez faire des calculs. Si, voilà, si vous consommez 2000 kilocalories par jour, comptez 200 à 400 de protéines. Pour les lipides, c'est un peu plus. C'est 30 à 40% plutôt de la proportion en kilocalories. Ce qui fait beaucoup en fait, hein. On ne se rend pas forcément compte, mais en réalité, les lipides, on en a besoin de beaucoup. Les lipides ne pas descendre, c'est une recommandation de l'agence. J'ai oublié son nom de cette agence, mais voilà, 1 gramme par kilo de poids de corps, c'est une valeur là, en dessous de laquelle il faut pas descendre. Ce qui correspond environ à 100 grammes de lipides par jour. Voilà. Et le reste de ça, le reste en part de kilocalories, c'est dédié aux glucides. Donc souvent, ça correspond à 50% du total. Et comme tout à l'heure, je le précisais, évitez de dépasser les 25 grammes par jour de sucre. Donc pour le coup, sucre, ça va être glucose, fructose. Donc 25 grammes par jour, c'est une valeur qui est. Qui match avec 2000 kilocalories. Au niveau des fibres, donc on va dire tout ce qui est légumes, bah en fait littéralement à volonté. Voilà, parce qu'en fait, ça ne fait qu'un. Ça a un contenu en calories qui est très pauvre. De toute façon, c'est pas quelque chose qui va être stocké quoi que ce soit, c'est quelque chose qui peut juste aider. Et la valeur de référence, c'est 30 grammes de fibres par jour. Voilà, et donc si jamais vous faites ça, si jamais vous respectez ça tous les jours, je peux vous garantir que vous n'aurez plus faim. Vraiment, c'est. Voilà. Donc pour compter en fait tous ces trucs-là, vous pouvez le faire à la main, mais c'est long. Il y a une application qui s'appelle Yazio. Je vais l'écrire, qui permet de voilà, vous scanner des codes barres d'aliments et ça vous donne des valeurs, c'est assez pratique. Donc voilà, si vous voulez vérifier que vous êtes dans ces valeurs-là ou pas, il y a soit Yasio, il y a une autre méthode aussi. Alors tout à l'heure on a vérifié l'idée de notre consommation d'eau en regardant dans nos urines. Donc vous me voyez venir, en fait on peut aussi vérifier notre consommation de macronutriments en regardant ce qu'on laisse derrière nous aux toilettes. Et donc pour ça j'ai un magnifique chart à vous partager qui est sourcé et tout, il y a des études. Je vous le mets en lien comme ça parce que sinon j'ai fait un test, c'est trop petit. Donc voilà, donc ce qu'on apprend par exemple, c'est que si vous avez un caca trop collant contre les parois de faïence, c'est que vous avez mangé trop de lipides, par exemple. C'est intéressant. Enfin non, pardon. C'est pas que vous avez mangé trop de lipides. C'est que globalement, votre corps n'a pas assimilé tous les lipides que vous lui avez envoyés. Et donc, ils se sont retrouvés rejetés. Ça ne veut pas forcément dire que vous n'avez pas mangé, que vous n'avez assez, ça veut juste dire que vous les avez rejetés. Pareil, donc il y a plein d'indices intéressants à trouver. Voilà, c'est... Je vous laisserai lire tout ça. Je sens que les gens sont passionnés. Donc cette charte permet de clôturer cette partie sur la glycémie, qui était la grosse partie. J'ai encore une petite partie à évoquer qui concerne une autre hormone que pour l'instant on a parlé beaucoup, l'échelle de Bristol. Alors je sais pas ce que c'est que l'échelle de Bristol. Il y a une autre hormone dont on n'a pas encore parlé pour l'instant qui s'appelle la leptine. Échelle de Bristol, oui, bah c'est exactement, en fait c'est la même chose. Je pense que c'est exactement sur ça que se base ce graphe. Par contre, la leptine, donc c'est quelque chose qui est intéressant pour compléter ce que je viens de dire là, mais qui est une hormone qu'on a découvert assez récemment et sur laquelle il n'y a pas eu forcément autant de recul que ça. Donc en fait, ce que je veux dire là, il y a des chances que ce sera réfuté un jour. Mais en attendant, c'est ce qu'on en sait. C'est une hormone qui est synthétisée alors, de deux manières différentes, par nos cellules adipeuses et par nos organes du système digestif quand ils sentent qu'ils sont remplis, quand ils sont dilatés. Enfin, voilà, on a des capteurs de dilatation et quand ces capteurs sont activés, on génère cette hormone. C'est une hormone qui expliquerait une sensation de satiété prolongée après une grosse prise alimentaire. Alors que la glycémie, elle, c'est plutôt quelque chose qui va combler la satiété à court terme, juste après un repas. Le souci avec la glycémie, c'est que en fait 4 à 5 heures après un repas, elle va être identique à avant le repas. Donc en fait, si vous mangez, on va dire à midi, vous devriez avoir faim vers 16h, 17h. Donc mais souvent on ne mange pas à cette heure-là, donc il y a un gap qui n'est pas vraiment expliqué, et donc ce serait ce gap-là. Donc la leptine, donc deux manières de la générer. Il y a une observation qui est intéressante, c'est que si vous mangez plus de fibres alimentaires, donc qu'on retrouve beaucoup dans les légumes, aussi dans les légumineuses, ça va vous créer une sensation de satiété sur le long terme, parce que ça va, en gros, ça va prendre de la place. Ça va particulièrement, les fibres vont particulièrement prendre de la place dans votre intestin. Et donc, vous allez produire de la leptine. Un autre élément intéressant, c'est que, en fait, on observe que chez les personnes, en fort surpoids, elles ont beaucoup plus de leptine. Euh, et chez les personnes qui ont une faible masse adipeuse. Ce serait une manière de dire pour le corps, c'est bon, j'ai assez d'énergie, j'ai des réserves en plus, aujourd'hui t'as pas besoin d'aller chasser. Genre, tu peux te reposer, j'ai des stocks, je vais les écouler au fur et à mesure. La question qu'on se pose, donc, je viens de dire que la leptine, plus on en avait, moins on avait faim. En fait. Et chez les personnes qui sont en forte, qui ont beaucoup de masse adipeuse, on pourrait se dire, bah, du coup, elles sont censées avoir faim jamais, en fait, jusqu'à ce qu'elles perdent. Et en fait, non, c'est pas ça qui se passe. Et donc, ce qu'on pense, enfin, je crois que c'est avéré, c'est que c'est exactement, enfin, c'est un phénomène qui est assez fréquent, c'est quand vous avez en trop grande quantité une hormone, votre corps s'habitue, donc vos récepteurs sont de moins en moins sensibles à cette hormone. Donc, en fait, là, on est véritablement dans de la rétroaction voilà, positive, négative. Si vous avez beaucoup de masse grasse pendant longtemps, en fait, vous allez de plus en plus vous habituer à ce que cette hormone soit à un niveau élevé dans votre corps. Voilà. Mais dans tous les cas, le corps est capable de capter à la fois la valeur absolue, même s'il peut s'y habituer et donc du coup être moins sensible, il peut aussi capter des différences entre des taux. Et donc si jamais vous avez récemment stocké, enfin si vous avez récemment augmenté votre masse adipeuse, ça peut être quelques jours, hein, c'est pas forcément quelque chose de lent. En fait, vous allez avoir tendance à avoir moins faim. Et vous allez avoir tendance à plus donc déstocker pour revenir à cet ancien niveau d'équilibre. Et à l'inverse, du coup, si jamais vous avez une perte trop rapide, ben vous allez avoir, enfin, trop rapide et trop prolongée sur la durée, type régime hypocalorique un peu naïf, en fait, vous allez avoir tendance à reprendre, parce que votre corps se dit, attends, là, il y a un problème, là, je perds trop de réserves d'énergie, les glucides, si j'en ai pas assez, je peux tomber dans le coma, donc j'en ai besoin. Donc, il refait ses stocks. La prochaine fois que vous allez avoir de la glycémie qui va augmenter, le corps va tout capter. Et donc, vous aurez une glycémie qui va descendre. Donc, vous allez avoir encore plus faim. Donc là, en l'occurrence, ce que j'évoque, c'est un phénomène de yo-yo dont on peut entendre parler, lié au régime hypocalorique un peu naïf. Voilà, et donc rapidement, pour optimiser son taux de leptine, il y a des trucs qui marchent, genre avoir un sommeil suffisant. Voilà, en fait, durant votre sommeil, votre corps produit de la leptine. Si on ne dort pas assez, on a plus faim la journée. Et tout à l'heure, je parlais des lipides importants. Les oméga-3 sont des lipides importants dans la synthèse de la leptine. Donc, ne pas en avoir assez peut causer des soucis hormonaux à ce niveau-là. Voilà pour la partie leptine. Donc, y a plein de sujets sur lesquels je suis tombé en faisant des recherches que je n'ai pas évoquées. Typiquement, l'activité physique qui aide à stabiliser les niveaux hormonaux de leptine et d'insuline. Typiquement, l'indice de satiété des aliments. C'est-à-dire que, en plus de leur niveau glycémique, certains aliments ont des propriétés assez intéressantes, comme les pommes de terre, qui apportent une satiété qui ne peut pas être expliquée que par leur contenu en glucides. Et derrière ça, en fait, l'idée c'est que c'est un élément qui contient une substance à destination des consommateurs qui permet en fait d'inhiber leur envie d'en consommer d'autres. C'est quelque chose qu'on retrouve chez des plantes. Des fois, il y a des plantes qui se font bouffer par des herbivores et qui en fait sécrètent une... Alors j'ai peur de dire une toxine, je sais pas si c'est le mot. En tout cas, une substance qui est pas toxique pour le coup, mais qui permet juste de dire, bah en fait, stop, quoi. Laisse-moi vivre. Voilà, donc il y a plein d'autres trucs que j'aurais pu explorer, que je n'ai pas fait. Mais pour finir, voilà. Peut-être qu'après tout ce talk, vous vous dites, 1 gramme de lipides par kilo, les fibres, en vrai c'est chiant. En vrai c'est un peu relou tout ça. En vrai je vous comprends. Parce que au début quand j'ai creusé ce sujet, c'est exactement ce que je me suis dit. Voilà. Puis au final, j'ai découvert, enfin grâce à ces valeurs que j'ai essayé d'optimiser, j'ai découvert plein d'aliments cool qui n'étaient pas très populaires et en réalité, en plus de leurs propriétés nutritives très intéressantes, ils sont très bons. Voilà, donc je crois que j'ai jamais autant aimé manger qu'en ce moment. Et sur ce, j'espère que c'était intéressant et je vous remercie de votre attention.
Eh bien, merci beaucoup, JB, c'était super instructif. Bravo, merci. On va passer aux questions. Juste avant, on va aller relancer les bots d'enregistrement, histoire que ceux qui écoutent le podcast puissent également entendre les questions, ça en intéressera sûrement plusieurs. Petite pause de 30 secondes pour tout le monde, attendez que le bot soit revenu pour passer aux questions. Et JB, ça te fera l'occasion de faire une pause et de boire un coup aussi. Alors, 30 secondes.
Merci.